Donc on va reprendre là où on était resté. Vous vous souvenez que Michal, la femme de David, était restée à sa fenêtre à regarder ce qui se passait en bas, la foule qui entourait l'arche de l'Alliance, le coffre du Seigneur, qui revenait dans la ville. Et on avait vu que lors de cette fête, David, lui, il n'était pas resté à la fenêtre, il était descendu et il avait enlevé son manteau royal. Et puis, il avait juste mis une sorte de pagne, c'est-à-dire une sorte de jupe, puisque à l'époque, les hommes portaient des robes, il avait juste le bas. Et puis, voilà, il dansait, il chantait, il jouait des instruments. Et sa femme, qui regardait ça de loin et de haut, dans tous les sens du terme, a ressenti un profond mépris pour lui. Alors, elle aurait pu descendre, comme on a vu la semaine dernière, comme Zachée était descendu de son arbre, ou Nathanaël, qui s'était approchée de Jésus. Elle aurait pu se mêler à la foule comme Myriam, la sœur de Moïse, l'avait fait 400 ans avant. Elle aurait pu être entraînée par la ferveur locale et puis peut-être, tout doucement, être entraînée à louer Dieu et avec les autres. Mais elle a fait un choix. Et ce choix, c'était de rester là, regarder, à critiquer, à juger et à mépriser. Et ça l'a amené à une totale incompréhension. Et c'est ça le problème. David a fait aussi ce choix-là une fois, quelqu'un me l'a fait remarquer. On le verra l'année prochaine. Vous vous souvenez, il y a une fois dans sa vie où il est resté à sa fenêtre ou sur sa terrasse au lieu d'aller à la guerre avec ses hommes. Et ça a été une catastrophe, on verra ça l'année prochaine. Donc voilà, c'est toujours mauvais de rester à distance. Soit dans l'oisiveté, soit dans la critique, soit dans le jugement. Mais c'est toujours un mauvais choix qui n'est jamais bon pour la personne. Ce n'est pas bon pour les autres, mais ce n'est surtout pas bon pour la personne qui le fait. Alors, en rentrant à la maison, madame l'attendait. Et ça ne s'est pas forcément très bien passé. Il devait être très surpris parce que lui, il était dans l'esprit de ce qu'il venait vivre. Et je pense que c'est important de relire la conversation quand il est rentré à la maison. David revint pour bénir sa maison. Donc on est dans 2 Samuel 6, verset 20. Et Michal, fille de Saül, donc sa femme, sortit à sa rencontre. Ah, ça c'est sympa. Elle dit, quelle gloire aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être exposé aux yeux de servantes de ses gens comme s'exposerait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant le Seigneur que j'ai agi ainsi, lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'instituer chef sur le peuple du Seigneur, Israël. Et c'est devant le Seigneur, voyez ça, que je continuerai à jouer de la musique. Je veux paraître encore moins que ça et m'abaisser à mes propres yeux. Et c'est auprès des servantes dont tu parles que je veux avoir ma gloire. Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Ah, donc on avait lu ce texte et on avait regardé comment elle a réagi et comment David lui a répondu. Et quand on voit cette conversation, on voit qu'il y a un abîme qui sépare les deux. Un abîme complet. Parce que ce sont deux façons différentes de voir le Dieu d'Israël et de voir le rôle du roi que Dieu a choisi. Si on prend d'abord le point de vue de Michal, ben évidemment la Bible parle de mépris et visiblement d'ironie quand elle dit « Quelle gloire aujourd'hui pour le roi d'Israël !» Voilà, elle se moque avec beaucoup d'ironie. Alors, qu'est-ce qu'on note dans cette phrase? C'est qu'elle ne mentionne ni la raison de la fête. Ça, c'est embêtant quand même. Elle ne mentionne absolument pas la raison de la fête. Ni l'arche de l'Alliance. Pourtant, c'était un grand jour et on va voir après ce que ça représentait pour les enfants d'Israël. C'était un grand jour. Le symbole de la présence de Dieu revenait dans la capitale. Maintenant, c'était la capitale, la ville de David. Elle ne mentionne pas. Elle ne mentionne pas non plus les sacrifices qui ont eu lieu, avec tout le rituel, qui est quand même très impressionnant. Elle l'a peut-être vu, mais ça. Elle ne mentionne pas les chants, ne mentionne pas la musique, ni même le nom du Seigneur. Vous avez vu dans ce qu'elle dit? Quelle gloire pour le roi de s'être exposé, etc., comme s'exposera un homme de rien. Tout le reste, elle n'en parle pas. Par contre, toute son attention est fixée sur le regard des autres. qu'est-ce que les gens vont penser de ce roi qui s'expose, hein, qui s'expose aux yeux des servantes. Alors elle a un deuxième problème, c'est pas seulement le regard des autres, c'est le regard des plus humbles, le regard des plus pauvres, autrement dit de la classe sociale inférieure. Ça la préoccupe. C'est une princesse, Michal. Elle a été élevée à la cour, elle est peut-être née déjà seulement quand Saül était roi. Du coup, elle n'a jamais connu la vie de l'agriculteur Saül avant qu'il soit roi. Donc, c'est une princesse, elle le sait, et elle a oublié que son grand-père était agriculteur et son père a passé son temps deux ou trois jours à chercher les ânesses, hein, vous vous souvenez de l'histoire. Tout ça, elle l'a oublié, c'est une princesse. Et on se voit dans le regard des autres et comment David a pu se comporter comme ça. C'est pas possible, comme un homme de rien. Et ce mot-là est fort. J'ai regardé un petit peu, c'est un homme de rien ou un homme vide, un homme creux. Waouh, David était loin d'être un homme creux. Et pourtant, c'est comme ça qu'elle le voit. Le regard des autres et le regard des plus pauvres, il faut les impressionner, ces gens-là. Elle avait une forte conscience de classe. Hein, si j'avais une analyse marxiste du texte, je pourrais faire tout un discours là-dessus, mais ce n'est pas le cas. Mais elle était très fortement attachée à sa classe sociale, ça se sent. Et elle assimile David, lui, à un homme de rien. Et elle n'a pas entièrement tort. Ah, pourquoi ? Parce que David était un petit berger. Et cette semaine, en vidant un peu les papiers qui traînaient, et Dieu sait qu'on en a beaucoup, j'ai redécouvert un article dans une revue qui s'appelle « En temps où Israël ». Les amis d'Israël, je ne sais pas trop, peut-être vous connaissez. Mais il y a un article qui m'a intéressée. Et je vais vous lire rapidement ce qui est écrit. Elle parlait de la naissance de Jésus. Même si la Bible ne date pas cet événement, c'est-à-dire la naissance de Jésus, les bergers de Bethléem gardaient les moutons nuit et jour dans les champs. Vous vous rappelez que David gardait les moutons à Bethléem 1000 ans avant la naissance de Jésus. De mars à novembre, donc Jésus est forcément né entre mars et novembre, ils vivaient dehors, protégeant leurs troupeaux contre les bêtes sauvages, on le connaît dans l'histoire de David, et les braconniers. Certains érudits de la Bible pensent même que les brebis que les bergers gardaient étaient destinées au sacrifice dans le temple. Donc c'était un privilège pour David de garder les moutons qui allaient servir au sacrifice. Le texte lui-même ne précise pas à quoi ces brebis devaient servir. La société, c'est ça qui m'intéressait, et les juifs rabbiniques méprisaient le travail de berger. Et ils regardaient les bergers avec mépris, comme les Égyptiens d'ailleurs, du temps de Joseph. Vous verrez ça dans Genèse 46, 34. Les gens considéraient les bergers comme des païens, ne leur permettaient pas de témoigner lors d'un procès, c'est vraiment la seconde zone, hein, et refusaient même de leur faire l'aumône. Pouh. Ils étaient souvent assimilés à des voleurs, des gens malhonnêtes, indignes de confiance. Ils étaient rejetés par les rabbins qui les jugeaient cérémoniellement impurs. Ces attitudes de rejet résultaient du fait que les bergers étaient généralement des gens incultes, ignorants de la loi de Moïse, et rejetés comme la classe la plus basse des Israélites. Ah, pourquoi elle dit « tu t'es comporté comme un homme de rien » ? C'est qu'à l'époque, les bergers étaient des hommes de rien. Et en le voyant danser comme ça, juste avec ce petit pagne, il se comporte comme un berger. Le berger qu'il était. Aïe, 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 aïe. Et avec ça, elle trace un trait sur tout son passé. Et c'est ça qui est terrible. Goliath, les 200 Philistins qu'il avait tués pour avoir sa main, sa patience et son respect envers son père, qui est quand même exceptionnel. Les nombreuses victoires dans les guerres avec les Philistins et aussi toutes sortes d'autres ennemis. Tout ça n'existe plus. Il s'est comporté comme un homme de rien, comme le berger qu'il était, quoi. Voilà. Aïe. C'est dur quand même, hein. Et j'ai pensé que c'est vrai que quand on rentre dans le mépris, c'est un choix. C'est un choix. Et quand on rentre dans le mépris envers une personne qui n'a rien de particulier, qui n'est pas en opposition à la loi de Moïse, qui n'est pas en opposition à ce que dit la parole de Dieu, on ne voit plus que ce qui nous déplaît dans la personne. Tout le reste, on l'ignore. et on ne peut plus apprécier ce qu'elle a de bien, ce qu'elle a fait de bien ou ce qu'elle est de bien. Et on se focalise uniquement sur le domaine où elle a fait quelque chose qui ne nous plaît pas. Et c'est le mécanisme du mépris. Il y a un truc qui ne nous a pas plu. Et là, David, le grand vainqueur de Goliath, devient un homme de rien. Ah. Maintenant, on va regarder le point de vue de David. Alors là, je suis impressionnée déjà par sa réponse. Ce n'était pas une époque où les hommes acceptaient volontiers de se faire insulter. Hein, c'était une époque patriarcale, quand même. Hein. Mais David, il ne bouge pas. De toute façon, il a été berger, et puis voilà. Et alors ? Il ne revient pas là-dessus. Par contre, ce qui l'intéresse, c'est le regard. Sous quel regard j'ai dansé et chanté ? Et la première chose, les premiers mots, c'est « devant le Seigneur ». Moi, je l'admire parce que c'était quand même vexant. Il aurait pu essayer de se défendre. Il n'a pas. Ben maintenant, je suis roi, regarde tout ce que j'ai fait. Rien. Tu veux me mépriser ? Ok. Mais moi, c'est devant le Seigneur. Et ça, c'est très important. Parce qu'il remet les choses dans la bonne perspective. Et il va le dire deux fois. C'est devant le Seigneur. C'est devant le Seigneur. Moi et Dieu. C'est ça qui est important. Il remet les choses à leur place. Et je pense que quand on subit un mépris, qu'il soit justifié ou non aux yeux des gens qui nous méprisent, c'est important de revenir à notre relation avec Dieu. Alors ça peut vous arriver à l'école, ça peut vous arriver au travail, ça peut vous arriver n'importe où. Mais attention, c'est notre relation avec Dieu qui compte. C'est ça qui va tout remettre dans la bonne perspective. C'est devant le Seigneur que je vis. Et il va faire une deuxième chose. Il va mentionner le peuple du Seigneur. Il m'a appelé à être roi sur son peuple, à être le chef de son peuple. De son peuple. Ce n'est pas le peuple de David. Il rappelle à la princesse et à la femme du roi que Michal est, que le peuple ne lui appartient pas. Il appartient au Seigneur. Et ça, c'est important aussi. Ce que je fais aujourd'hui, c'est devant le Seigneur et c'est avec le peuple du Seigneur. Et c'est important de considérer aussi l'Église comme le peuple du Seigneur. Et peut-être que parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas ceci, qui ne sont pas assez cela, etc. Mais c'est le peuple du Seigneur. Et pour David, c'est ça l'important. Il m'a, je vais redire la phrase exacte, institué chef sur le peuple du Seigneur. Donc tous ces gens que tu considères, Michal, comme des pauvres gens, des gens de rien, les servantes de mes hommes, hein, ça veut dire les servantes de mes serviteurs, vraiment en dessous, là, la basse classe, quoi. Bon, toi, Michal, tu considères ça comme ça, ok, c'est ton problème, mais moi, je vois le peuple du Seigneur. Et Dieu les aime. Et c'est important de rester dans cette optique, par rapport à l'Église aussi. C'est le peuple du Seigneur. Et Dieu voit les cœurs. Et peut-être que les cœurs de ses servantes, des serviteurs de David, étaient beaucoup plus inclinés vers le Seigneur que le cœur de Michal. Probablement même, parce qu'elles étaient là à danser en l'honneur de l'Éternel. Il va aussi dire quelque chose qui m'a beaucoup frappée, c'est lui qui m'a choisi. Si je suis là aujourd'hui, c'est surtout pas grâce à son père d'ailleurs, mais c'est lui qui m'a choisi. C'est Dieu qui m'a choisi. Et ça, c'est important. Chaque fois que l'ennemi cherche à remettre en cause ce que vous faites, même au travail, à l'école, n'importe où, c'est Dieu qui m'a conduit là. Alors on va dire, bah non, parce qu'on est à l'école, c'est obligatoire. Oui, oui, mais Dieu vous conduit dans un endroit plutôt qu'un autre. Au travail aussi, c'est Dieu qui conduit. Et de penser, c'est Dieu qui m'a choisi, c'est Dieu qui m'a conduit, ça s'appelle l'appel. Et quand on est dans l'appel, quand on sait que Dieu nous a mis quelque part, surtout si on sait que ce n'était pas notre choix premier au fond de notre cœur, c'est encore plus sûr, eh bien, on est en sécurité et personne ne peut nous déstabiliser. C'est lui qui m'a choisi. Waouh ! C'est important de se rappeler ça. Et au passage, c'est peut-être le seul petit pic que je verrai dans son discours, il m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison. Au passage, quand même, je te signale que Dieu m'a choisi puis il a rejeté la famille de Saül pour des bonnes raisons, évidemment. Autrement dit, je lui appartiens, le peuple lui appartient, et la fête, elle était pour lui, pour le Seigneur. Donc, tu peux dire ce que tu veux quelque part. Moi, j'étais là où Dieu voulait, avec les gens que tu as choisis, dans une fête qui était en l'honneur du Seigneur. Il remet les choses exactement en place. Il ne se défend pas, il n'accuse pas, il revient à l'essentiel. Où je suis, c'est Dieu qui m'a placé là. Ok ? Alors, bon, moi, franchement, à la place de David, je pense que j'aurais dit, bon, je suis désolée, peut-être que j'ai un peu exagéré, j'aurais dû modérer mon enthousiasme. Ah, bon, il y a des gens comme moi, je suppose, hein, il y en a qui font non. Bon, tant mieux pour vous. Bon, j'aurais peut-être essayé, mais j'admire le courage de David de dire, c'est lui qui m'a choisi, c'est son peuple, c'était la fête en son honneur, ok. C'est comme ça. Et il ne s'est pas excusé. Il n'a pas essayé de dire « j'aurais dû modérer mon enthousiasme », ce que moi peut-être j'aurais fait à sa place. Parce qu'il est à l'aise avec son identité. Je suis choisie par Dieu. Et soyons à l'aise avec notre identité. Nous sommes enfants de Dieu. Bien sûr, on fera des choses de travers. Bien sûr, on fera des choses qui ne sont pas correctes. Et Dieu va nous corriger. Et Dieu sait très bien mettre la fessée quand il veut. Hein. Moi, je lui fais confiance de ce côté, il n'y a pas de souci. Mais il nous a choisis. Nous sommes son peuple. Et puis alors, là où il a un courage fou, c'est qu'il lui dit, écoute, en plus, c'est devant le Seigneur que je continuerai. Ne crois pas que tu vas m'arrêter. Bah, il faut le faire. Et je veux paraître même encore moins, m'abaisser à mes propres yeux. Et c'est auprès des servantes, là, dont tu parles, que je veux avoir ma gloire. C'est-à-dire que ce peuple, ce petit peuple d'Israël, on va dire, reconnaissent que ma vie est à la gloire de Dieu. Reconnaissent que je suis soumis à Dieu, que je l'honore et que je le loue. C'est ça l'important pour moi. Waouh ! Moi, franchement, la réponse de David, elle m'époustoufle. J'aurais pas pu faire ça. Mais ça nous aide chaque fois qu'on est en face du mépris, d'où qu'il vienne. Et en pensant à ce verset, je sais pas pourquoi il m'est venu le verset de 1 Corinthiens 4:7 qui dit « Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» C'était vrai pour Michal. Qu'est-ce qu'elle avait reçu ? C'était la fille de l'ancien roi, la femme du nouveau roi. Bon, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifierais-tu ? Voilà. On a tout reçu de Dieu. Donc on n'a aucune raison d'entrer dans le mépris. Et faisons comme David, quand on est face au mépris, rappelons-nous qui on est devant le Seigneur et qui est le Seigneur pour nous. Alors, moi je comprends la pauvre Michal. Franchement, si on se met à sa place, eh ben, elle ne peut absolument pas comprendre l'humilité de David. Elle ne peut pas. Et il y a une raison toute simple, le Seigneur n'est visiblement pas au centre de sa vision du monde. Ça se voit, elle n'a même pas cité une seule fois. Sa vision du monde, c'est la classe sociale, c'est l'apparence. Et rappelez-vous, son père était déjà comme ça, donc la pauvre, elle a hérité ça aussi de son papa. Le Seigneur ne semble pas avoir une place importante dans sa vision du monde. Par contre, les idoles en ont une, hein, vous vous souvenez, avec son gros téraphime qu'elle avait mis dans le lit pour faire croire que c'était David. Oui, elle avait une belle idole là chez elle. Et bien sûr, le culte de l'apparence. Mais c'est normal pour une princesse, hein. Ça peut se comprendre, mais ce n'était pas le Seigneur. Donc c'était impossible pour elle de comprendre la réaction de David. Parce que ce sont deux mondes complètement différents. La lumière et les ténèbres. Si vous êtes, dans la forêt en pleine nuit, vous n'aurez pas du tout le même point de vue sur la forêt que par un beau matin d'été. Et ben, c'est ça, difficile à comprendre. La nuit, vous voyez toutes les ombres, les choses qui font peur, les bruits bizarres. Et puis le jour, c'est complètement différent. Et c'est ça, ce sont deux mondes différents. Alors, après, on arrive au verset 23 qui dit « Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. » Alors, certains pensent que c'était une malédiction, certains pensent, bah oui, ils se sont fâchés, il ne l'a plus fréquenté. En tout cas, moi, je veux garder le côté symbolique de ce verset, Pour le reste, la Bible ne dit pas. Vous savez, quand elle dit pas, bah voilà, on va pas trop imaginer. Mais je crois qu'il y a un côté symbolique qui est très important. Déjà, il n'y aura pas de successeurs qui vont unir la lignée de Saül à la lignée de David. Et je pense que secrètement, dans son cœur, David aurait peut-être souhaité ça, en souvenir de Jonathan, son ami. Peut-être souhaité avoir un enfant. Quand il a fait revenir au palais, peut-être il se disait, voilà, c'est un bon signe de réconciliation dans son cœur humain. Mais Dieu ne l'a pas permis, parce que c'était deux mondes totalement, totalement différents. Et puis, le côté symbolique de la stérilité. C'est peut-être celui-là qui m'intéresse le plus. Je pense que quand on est dans le mépris, quand on ne voit pas la place du Seigneur, quand on cherche à mettre autre chose au centre de sa vie que le Seigneur, il y a une stérilité qui va accompagner cette démarche. Et pourquoi je pense ça? C'est parce que vous vous souvenez, quand l'Arche de l'Alliance était chez Obed-Edom, la Bible dit que pendant ces 3 mois, il a prospéré et toute sa maison a prospéré. Or, il ne s'agit pas de la prospérité dont on parle dans certains milieux, hein, la Mercedes, etc., etc., qui revient à tous les chrétiens. Non, non. Mais la prospérité, c'était vivre bien, vivre dans la paix, vivre heureux, avoir ce dont on avait besoin. Hein, dans la Bible, la prospérité, ce n'est pas ce qu'on imagine aujourd'hui. Et la stérilité va accompagner le mépris. Et je crois que l'indifférence à la gloire du Seigneur va accompagner une forme de stérilité, où les choses ne vont pas être terribles, quoi. Ça ne prospère pas, on n'est pas bien. Et par contre, avec Obed-Edom, il a accueilli l'arche, eh bien, la bénédiction s'est répandue sur sa famille. Je n'irai pas plus loin que ça, que cette stérilité spirituelle dans la vie. Et je crois que, qu'elle soit malédiction ou qu'elle soit simplement une conséquence de la séparation, je crois que la stérilité est une conséquence du mépris. Et être stérile, c'est ben voilà, pas produire des bons fruits, comme dit la parole de Dieu. Elle n'a pas produit de bons fruits, aussi au sens symbolique, pas seulement elle n'a pas eu d'enfant, mais symboliquement, elle n'a pas produit de bons fruits, elle ne pouvait rien produire de bon avec le mépris et l'indifférence au Seigneur qui était dans son cœur. Pauvre Michal. Alors on remarque aussi que rien n'a pu faire changer David. Sa relation avec Dieu est très forte, il sait qui est Dieu, et il sait qui il est en Dieu. Et ça, je crois que c'est très important pour nous chrétiens, on a parfois du mal parce qu'on vit dans un monde tellement différent, justement, un monde de Michal. Et c'est important de toujours revenir, quelle est ma relation avec Dieu? Pourquoi je suis là? Vous savez, le pourquoi. Pourquoi je vais à l'église? Pourquoi je prie? Pourquoi je lis ma Bible? Ou pourquoi je ne la lis pas? Savoir pourquoi, c'est important. Surtout quand on est jeune. Mais toute la vie, c'est vrai. Il faut savoir pourquoi notre relation avec Dieu doit être forte comme celle de David. Il sait qui est Dieu et il sait qui, lui, il est en Dieu. Et puis, il sait que Dieu l'a appelé. Et ça, quelle que soit votre profession, quels que soient vos rêves, etc., je pense que c'est important de savoir à quoi Dieu m'appelle. Et c'est vrai qu'André nous en parle souvent. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais effectivement, dans ma propre vie, ma mère n'utilisait peut-être pas ces mots-là, mais ça revenait à ça. Qu'est-ce que tu vas faire pour le Seigneur? Où est-ce qu'il va t'envoyer? Qu'est-ce que tu vas mettre à son service? C'était le centre dans ma famille. Et effectivement, on n'utilisait peut-être pas les mêmes mots qu'on utilise aujourd'hui, mais quand je réalise maintenant que c'est ça qui aide beaucoup. Et ça aide beaucoup quand on est jeune, parce que quand on est jeune, regardez un tout petit peu, entre 15 ans et 20 ans, pratiquement tous nos choix de vie sont faits. Un petit peu plus maintenant, parce qu'on se marie un peu plus tard. Mais c'est dur quand même. À l'époque où on a le moins de moyens pour faire les bons choix, c'est là qu'on fait les plus grands choix. Hein? Avec qui je vais me marier? Qu'est-ce que je vais choisir comme profession? Où je vais habiter? Tous ces choix-là se font pratiquement. Oh, on va aller jusqu'à 25 ans, hein? Allez, entre 15 et 25 ans. Mais c'est quand même terrible. Et là, on a vraiment besoin. C'est pour ça que les jeunes, aujourd'hui, vous avez besoin d'établir clairement votre relation avec Dieu. Pas faire comme Michal, rester en marge, au bord de votre fenêtre, à regarder ce qui se passe en bas. Non, non, prenez des décisions fermes. Parce que Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il n'y a pas de zone grise avec Dieu. Il n'y a pas de peut-être un peu, mais pas trop, etc. C'est l'un ou l'autre. Et d'ailleurs, quand on est jeune, on aime ça. Moi, j'ai vu beaucoup mes cinquièmes qui aimaient bien les positions franches. Oui et non. Et ben allez-y. Prenez parti, clairement. Et vous saurez qui vous êtes. Vous saurez qui est Dieu. Et vous saurez quel est le choix de vie qu'il vous donne. Et vous ne regretterez pas. Ça vous évitera d'être dans cette sorte de marécage. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Oui, non, peut-être, un jour, jamais. Enfin, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, dit la Bible. Choisissez aujourd'hui, n'attendez pas. Et la vie vaut le coup d'être vécue. Ça, je l'ai déjà dit aux ados plusieurs fois. Elle vaut le coup d'être vécue quand on la vit avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours de l'aventure. On ne s'ennuie jamais. Comme dit Julie, never a dull moment. Jamais un moment ennuyeux. Jamais, quand on est chrétien. Bien. Alors, à ce stade de sa vie, on peut dire que David a passé victorieusement toutes les épreuves venues de l'extérieur. Goliath, les Philistins, l'armée de Saül, les Amalécites, les habitants de Jérusalem. Ouais, parce que c'était encore une bataille pour avoir Jérusalem. Donc, c'est formidable. Mais avec Michal, on va voir que l'ennemi, notre ennemi à tous, l'ennemi entame une nouvelle stratégie qui va être beaucoup plus dure et malheureusement beaucoup plus efficace. Il va s'attaquer à David au travers de sa famille. Et ça, malheureusement, ça va être l'année prochaine, ça va être un peu sombre, parce qu'on va voir tous les démêlés de David avec sa famille, avec ses enfants. L'incompréhension et le mépris de Michal inaugurent en fait une longue période de souffrance familiale. Et il tient bon devant le mépris de Michal, mais vous allez voir que la stratégie très très fine d'Absalom va être beaucoup plus difficile à gérer pour David. Et il va se planter. Parce qu'il est humain, parce qu'il va suivre ses sentiments, parce qu'il va hésiter justement. Il va oublier un peu qui il est devant Dieu, etc. Vous allez voir. Et c'est ça qui va réussir à déstabiliser David. Le diable n'a pas réussi avec Goliath, il n'a pas réussi avec les Philistins, il n'a pas réussi avec l'armée de Saül, il n'a pas réussi avec les Amalécites qui lui avaient tout volé. Mais il n'a pas réussi non plus avec Michal. Par contre, avec son fils Absalom, vous allez voir, ça va être beaucoup plus dur, il va être déstabilisé et ça va provoquer une grande guerre civile. C'est tout le pays qui va être affecté. Alors, je voulais rapidement parler du fait que l'ennemi aime attaquer les enfants de Dieu au travers de leur famille. Il n'y a rien de plus efficace. Il n'y a rien de plus efficace pour David. Hein? Jésus, vous vous rappelez Jésus ? Sa mère et ses frères sont venus le chercher devant tout le monde en disant « Mais il est fou, arrêtez-le !» Alors, vous pensez bien que quand on sert le Seigneur, le diable va utiliser les mêmes tactiques. Quelques petits exemples, je pense à ma mère, quand elle a connu le Seigneur, sa personne préférée, on va dire, dans sa famille, c'était sa grand-mère. Elles avaient beaucoup de points communs. Moi, je l'ai connue, elle est morte quand j'avais 6 ans, donc j'ai quand même d'assez bons souvenirs de la grand-mère de ma mère. Mais moi, j'ai les souvenirs d'une période où elle était gentille avec ma mère, mais quand ma mère est venue au Seigneur, c'est la personne qui était la plus proche, c'était la personne avec laquelle elle s'entendait le mieux, qui l'a descendue en flèche, qui s'est moquée, qui lui a envoyé des pics tout le temps, qui a été vraiment pénible. Et ça a été très dur parce que c'était la personne préférée pour maman. Maman a dû tenir bon, c'était la première chrétienne dans la famille. Elle avait toute la famille sur le dos, mais ça, c'était pas trop grave. Mais sa grand-mère, ça a été dur. Et le diable savait qu'en attaquant là où c'était le plus sensible, il réussirait peut-être à la faire changer d'avis. Mais elle n'a pas changé d'avis, merci Seigneur, pour nous tous. André a vécu la même chose avec ses parents, et moi aussi, du coup, quand on s'est fiancés, ça a été une période difficile. Parce que la famille, c'est important. Et avoir ses parents qui vous traitent de fanatiques, qui se moquaient ouvertement de nous au moment de notre mariage, qui ne voulaient pas venir au mariage, bien sûr, etc. Ils sont venus quand même, mais ils sont décidés une semaine avant, quand tout était bouclé. Et ça a été dur. Et il a fallu que je pardonne pour que Dieu puisse intervenir et rétablisse les relations. Mais vous savez, c'est difficile. Quand, je me souviens très bien, à 18 ans et demi, j'étais présentée à la famille d'André et j'étais partie avec tous mes idéaux de chrétienne, que ce serait comme mes parents et que je les aimerais, qu'on s'entendrait bien et que c'était des gens formidables. Et c'était d'ailleurs des gens formidables. Mais ça, ça ne pouvait pas passer. Le côté spirituel, ça ne passait pas. Et on était fanatiques, on était ceci, cela. Et j'ai trouvé ça tellement injuste, moi qui venais avec tous mes bons sentiments. J'ai trouvé ça tellement injuste que ça a été difficile de pardonner. Quand vous aimez les gens et que les gens vous attaquent, c'est très difficile de pardonner. Parce que Dieu connaissait mon cœur. Moi, j'étais prête à les aimer comme mes parents. Ça a été dur. Mais je l'ai fait un jour. J'habitais au Bergenville à l'époque. Je me souviens de ce jour-là où j'ai dit, Seigneur, maintenant, je leur pardonne. La fois suivante, on est allé, les choses se sont beaucoup mieux passées. Et quelques années après, ça a été un rétablissement formidable. Et voilà, l'histoire se finit bien. Je n'ai pas le temps d'aller là-dessus, mais voilà, le diable attaque au travers des choses qui nous sont précieuses et des personnes qui nous sont précieuses. Alors, je parlais récemment, cette semaine d'ailleurs, avec quelqu'un en lui rappelant le pasteur de Bordeaux, le pasteur de l'Assemblée de Dieu de Bordeaux, qui a été agressé physiquement par son fils et qui a failli mourir. C'était à un cheveu, les pompiers ont dit, c'était à un cheveu. Je ne vous donnerai pas les détails, c'est un peu gore. Mais voilà, ça peut aller jusque-là. Quand le diable a décidé de casser quelqu'un, il va tout utiliser, et si possible sa famille. Et je sais que beaucoup d'entre nous ont vécu des moments difficiles quand ils sont venus au Seigneur, avec leur famille. Pour d'autres, imaginez que ça arrive quand on s'engage à servir le Seigneur. J'ai vu dans mon église des gens qui s'engageaient à devenir pasteurs et les parents, même chrétiens, qui s'opposaient. Parce que ce n'est pas une situation, parce que tu manqueras de tout, parce que... D'autres qui sont partis comme missionnaires, mais c'est de la folie. Ils ont été rejetés par leur famille. Et ça arrive même quand les gens partent parfois travailler avec une ONG, ou s'engagent à l'armée du salut, ou dans une école biblique. Ça crée... Le diable va utiliser la famille pour démolir. Et c'est normal, c'est... Il utilise tout ce qu'il a sous la main. Mais j'admire la réaction de David. Le Seigneur nous a choisis. Et si on fait face au travail ou dans d'autres circonstances à ce genre de mépris, eh bien faisons comme David. Dieu nous a choisis, il nous a sauvés, il nous a pardonnés. Laissons de côté le mépris, les moqueries, les critiques. Et disons comme David, c'est devant le Seigneur que nous continuerons. C'est devant le Seigneur que nous continuerons. Et je repense à ce verset, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Soyons fidèles à rendre le bien pour le mal, ça c'est important. Et puis ne nous lassons pas de faire le bien. Il y a quelqu'un récemment qui était lassé de faire le bien et je lui ai envoyé ce petit mot, ne nous lassons pas de faire le bien. Parce qu'il y a des moments où on se lasse, on se dit mais c'est pas juste quoi. Moi je fais ça bien et puis je reçois du mépris, ne nous lassons pas de faire le bien. On va lire rapidement le début du chapitre 7, versets 1 à 3. Lorsque le roi fut installé dans sa maison et que le Seigneur lui accordait le repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit à Nathan le prophète, « Regarde, je te prie, j'habite une maison de cèdre alors que le coffre de Dieu habite dans une toile de tente. » Et Nathan répondit, « Ô roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car le Seigneur est avec toi. » Ah, il est sympa Nathan. David entre dans une période de repos. Ah, ça fait du bien, on va le quitter là, dans une période de repos. On va terminer bien. Ce repos était une promesse de Dieu, mais c'est une grâce du Seigneur. Il n'y avait plus d'oppression extérieure. Ça, c'est déjà formidable. Le repos est une promesse de Dieu et une grâce. Moi, j'aimerais mieux que ce soit tout le temps, et de temps en temps seulement des problèmes, mais j'ai compris avec ce verset que c'est une grâce du Seigneur qui nous accorde à certaines périodes. Vous savez, on l'avait vu la dernière fois dans 2 Samuel 5, 11, que le roi de Tyr avait envoyé des tailleurs de pierre, des charpentiers et du bois de cèdre pour qu'ils puissent se faire un palais, et son palais devait être très beau. Alors on parle d'un palais de cèdre, ça veut dire que le palais était en pierre et on recouvrait l'intérieur de plaques de cèdre, de bois. Et en plus, ça sent très bon. Moi, j'aime énormément l'odeur du cèdre. Et donc, ça devait être magnifique. Mais peut-être que quand il regardait à sa fenêtre, décidément, on est dans les fenêtres en ce moment, il voyait le coffre de l'Alliance qui, lui, était sous une toile de tente. Ah, c'était conforme aux instructions de Moïse, mais c'était gênant à regarder. Alors, moi, je me fais un palais, et puis le symbole de la présence de Dieu est sous une toile de tente. Mais c'est quoi, ça? Et alors il dit à Nathan le prophète, regarde. Alors j'ai vérifié dans d'autres traductions, c'est voix, mais je pense que ce mot est important, regarde. Effectivement, ça frappe les yeux. Vous voyez, vous regardez d'un côté le palais du roi et de l'autre, la petite tante. David, le petit berger, est devenu roi. Il est dans un palais solide, lambrissé. Et le coffre, symbole de la présence du Dieu Tout-Puissant, sous une tente, fragile, pour peu qu'il y ait du vent et de la pluie, ça devait être impressionnant. Il y avait aussi un autre problème. Dans tous les pays païens autour d'Israël, c'était la responsabilité du roi de construire un lieu de résidence convenable pour le Dieu du pays, afin de lui rendre l'honneur qui lui était dû. Ah ! Donc il avait cette pression aussi. Comment je traite mon Dieu ? Vous voyez un peu ça ? Bien sûr, dans son cœur, c'était différent, mais là, physiquement, hein, matériellement, c'était embêtant. Un petit retour sur qui est Nathan le prophète. C'est la première fois qu'il apparaît dans la vie de David. Mais il va avoir un rôle très important pendant le règne de David et de Salomon. On va le retrouver l'année prochaine. Il ressemble un peu à Samuel. C'est un prophète indépendant du pouvoir politique. Et ça, c'est très important, parce que souvent, les rois avaient leurs prophètes attitrés qui leur disaient toujours « vas-y, c'est bien ». Donc là, non, il est indépendant du pouvoir politique, il est indépendant de la cour, c'est-à-dire qu'il ne doit rien au roi. Il n'appartient pas non plus au personnel cultuel, comme Tsadok ou le prêtre Abiathar. Donc il est totalement indépendant. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que c'est important. Il est capable d'entendre ce que Dieu veut lui dire et de le répéter au roi avec l'autorité de Dieu, sans avoir peur, sans être influencé par l'entourage du roi ou par le roi lui-même. Et ça, c'est important. Alors moi, je l'imagine à la fenêtre du palais ou sur la terrasse, regarder le beau palais de David et puis la tente qui abrite le coffre. C'est logique, hein, ça saute aux yeux. Quand on regarde objectivement la situation, Nathan répond quoi ? Fais ce que tu as dans le cœur, car le Seigneur est avec toi. Bah oui, c'est pas contre le Seigneur, quoi. Hein ? Seulement, un prophète ne doit pas seulement regarder, mais il doit écouter Dieu lui parler. Ah, là, c'est autre chose. Et cette nuit-là, il reçoit la parole du Seigneur. Le prophète est l'homme qui parle de la part de Dieu. Et ce jour-là, il avait parlé de lui-même en simple homme. Il avait exprimé les pensées de son propre cœur. Vas-y, fais ce que tu as à cœur. Et Dieu, lui, va le revoir la nuit en lui disant, attends. Et va dire à David, mon serviteur, ainsi parle le Seigneur. Pas ainsi parle Nathan. Ainsi parle le Seigneur. Ah, alors moi, il y a un truc que j'aime bien là, c'est que Dieu ne le gronde pas. C'est sympa. Il ne lui dit pas, mais qu'est-ce que tu as fait à lui donner raison alors que moi, je n'étais pas d'accord et j'avais des tas de choses et des tas de projets qui sont différents. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es un mauvais prophète. Non, non, il lui dit simplement, va dire à David, mon serviteur, ainsi parle le Seigneur. C'est tout. Ah, il est sympa le Seigneur quand même. Il est bon. Il ne nous décourage pas. Même quand on fait des bêtises. Et il avait fait une bêtise. Alors si un prophète comme Nathan pouvait se tromper et laisser parler son cœur au lieu de laisser parler celui du Seigneur, à combien plus forte raison nos prophètes au XXIe siècle peuvent s'égarer dans leurs pensées. Et il ne faut pas idolâtrer les prophètes et les prophéties. Ils peuvent se tromper. Mais oui, si Nathan pouvait se tromper, alors... Eh bien oui. Ils peuvent s'égarer dans leurs pensées. Et c'est encore plus grave s'ils sont attachés à des personnages importants, qu'ils soient des personnages politiques, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, qu'ils soient des gens dans les affaires, dans le business, ou même dans les églises. À partir du moment où il y a un attachement, il y a danger. On est humain. Et moi, je prie et prions que Dieu lève des prophètes. C'est important d'avoir des prophètes. Mais des prophètes comme Nathan, qui ne se fient pas à leurs pensées, à ce qu'ils voient, mais se fondent sur leur écoute du Seigneur. Ils ne s'arrêtent pas. Nathan, il s'est arrêté à ce qu'il a vu. « Oh bah oui, tu as raison, là, objectivement, c'est pas terrible le truc. Hein. » Non, non. Mais Nathan, il s'est trompé, mais il a été prêt à corriger son erreur. Et quand Dieu lui a dit « Va voir David et donne-lui la parole du Seigneur », il l'a fait. Il n'a pas eu peur. Un prophète peut se tromper. J'ai lu ça quelque part. Un prophète peut se tromper s'il parle avant d'avoir entendu. Il parlait après avoir vu, mais il a parlé avant d'avoir entendu. Et bah oui, bien sûr, les prophètes peuvent se tromper s'ils n'ont pas entendu la voix de Dieu, s'ils ont juste entendu la voix de leur cœur. Et nous-mêmes, si on a parfois une parole prophétique, attention d'avoir bien entendu la parole de Dieu. Et souvent, la parole de Dieu peut être carrément à l'opposé du sentiment personnel du prophète. C'était déjà le cas avec Samuel, rappelez-vous. qui dit « Mais vous voulez un roi, mais il ne faut pas, mais je ne suis pas d'accord. » Et puis Dieu qui lui dit « Allez, vas-y, laisse faire. » Ah bon, d'accord. De même, ce n'est pas parce qu'une chose est bonne et conforme à la parole de Dieu qu'elle correspond à l'appel de Dieu pour nous. Et ça, c'est difficile. C'est difficile surtout quand on est jeune, mais c'est difficile à tous les âges de la vie. Dire « Mais je vais faire ça pour le Seigneur, c'est bien. » Ben oui, mais est-ce que c'est l'appel de Dieu pour toi ? Je cite toujours cet exemple de quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui m'a vraiment frappée, qui avait un appel authentique pour les jeunes. Il était prof, et quand il était en face d'une classe, c'était formidable. Il avait un, je sais pas, un charisme pour les ados, extraordinaire. Je sais que mes petits voisins en étaient fous, ils l'avaient comme prof de maths. Mais lui, il avait décidé de faire autre chose pour le Seigneur. Et il a fait cette autre chose. Et il a gâché toute sa vie et la vie des autres. Dommage. Il avait un appel très clair, mais il avait quelque chose d'autre qu'il aurait aimé faire et qui était bon. On ne pouvait pas lui dire c'est mal. Non, non, c'était très bon, mais ce n'était pas son appel. Donc quand vous êtes jeune, demandez au Seigneur, mais à tout âge aussi, quel est mon appel ? Pas forcément ce que j'ai envie, ce que je veux, ce dont je rêve. Parfois oui, ça va être ce dont je rêve, parfois non. Mais en tout cas, une fois que vous rentrez dedans, vous serez sûr que vous serez heureux. Parce que ce pauvre, je peux vous dire qu'il n'a pas été heureux. Il a fait ce qu'il voulait. Oui, il a réalisé son rêve. Mais il a été très malheureux, sa famille aussi. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose est bon que c'est la volonté de Dieu. Notre appel, c'est notre appel. C'est ce qui correspond à ce que Dieu a voulu pour nous. Et comme je dis toujours, si vous mettez du linge dans un lave-vaisselle ou de la vaisselle dans un lave-linge, ça ne sera pas terrible. Même s'il n'y a rien de mal à ça. C'est pareil, vous êtes appelé à quelque chose, chacun est appelé à quelque chose. Demandons au Seigneur. Seigneur, c'est quoi mon appel ? Et je veux rentrer dans cet appel, et là je serai bien. Je vais terminer rapidement, parce qu'on avait encore un petit peu, mais ce n'est pas très grave. Simplement, j'en reparlerai l'année prochaine, mais pour terminer, en fait, David souhaitait un bâtiment pour la gloire de Dieu, et son cœur était pour la gloire de Dieu, c'est sûr. Et Dieu va dire, mais est-ce que je vous ai déjà demandé un bâtiment ? Ah, ben non. Et j'aime ce verset, non quand même, je craque, je vais vous le lire parce qu'il est très très important, moi ça m'a beaucoup frappé, et c'est encourageant pour nous aujourd'hui dans les difficultés. Dieu dit ceci, « Pourtant je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les Israélites jusqu'à ce jour, mais je me suis déplacée avec une tente pour demeure. Partout où je me suis déplacée avec tous les Israélites, ai-je dit un seul mot à aucune des tribus d'Israël ? Ai-je dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison ? » Et il dit clairement, je me suis déplacé avec vous. Pourquoi il était dans une tente, le Seigneur ? Moi, je me suis souvent posé la question, pourquoi une tente, alors que tous les peuples autour avaient... Les Égyptiens avaient des temples extraordinaires, il y en a qui sont encore là aujourd'hui. Eh bien, parce qu'il voulait se déplacer avec son peuple. C'est un Dieu qui est présent. Il voulait montrer au peuple, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas la Bible, hein, ils avaient juste la parole de Moïse, qui n'était même peut-être pas encore rédigée. Il leur a simplement dit, voilà, avec cette image, je marche avec vous. Je me déplace avec vous. Je n'ai pas un temple en pierre où il faudra revenir pour faire des pèlerinages. Non, je me déplace avec vous. Et je m'étais toujours demandé quand j'étais petite pourquoi l'Arche de l'Alliance, il avait des barres, tout était préparé, c'était même très technique, hein, avec des anneaux, pour pouvoir le porter, etc. Parce que le symbole était clair pour les gens de l'époque, je pense qu'ils comprenaient bien. Je marche avec vous. Je reste avec vous. Vous vous déplacez, je me déplace avec vous. Vous levez le camp, je lève le camp avec vous. Vous démontez la tente et vous emmenez l'Arche. Et l'image était claire, notre Dieu se déplace avec nous. Il n'est pas attaché à une terre, comme croyaient les païens. Il n'est pas attaché à un lieu où il faut venir faire des pèlerinages. Il marche avec nous, il est avec nous. Et au cœur de la pandémie, il est avec vous. Dans tous vos problèmes, il est avec vous. Vous subissez le mépris, la difficulté au travail, à la maison, n'importe où. Il est avec vous. Et ça, c'est le message que je voudrais qu'on termine, sur lequel je voudrais terminer cette année. Il marche avec vous. S'il a donné cette image très forte au peuple d'Israël, c'est parce que le peuple allait de lieu en lieu, ils étaient un peu nomades à l'époque, en attendant d'arriver à Canaan. Et c'était clair pour eux, on part, il part. On lève le camp, il lève le camp. Il est avec nous, il reste avec nous, il voyage avec nous, il déménage avec nous, il est avec nous. Et ça, c'est une image formidable. Je ne m'étais jamais rendu compte de ça jusqu'à ce que j'ai travaillé ce texte. C'est formidable qu'il ait donné cette image au peuple. Je ne suis pas comme les dieux qui sont voilà, dans un temple de pierre où il faut faire des pèlerinages. Non, non. Je suis un dieu qui se déplace avec mon peuple. Et ça m'a parlé doublement parce que quand j'ai rencontré André, le premier Noël, l'église où on était distribuait des versets. Et normalement, on en avait un différent chacun. Et André et moi, on avait le même. C'était « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos ». C'est une grâce, j'ai compris maintenant. C'est une grâce, rare, mais une grâce. Mais je marcherai moi-même avec toi. C'est-à-dire que, voyez ce que ça veut dire, il est au quotidien avec nous. Il subit les... Quand on est triste, il est triste avec nous, il vient nous consoler. Quand on est dans la joie, il est dans la joie avec nous. Et il est auprès de nous. Et dans cette période de pandémie, il est avec nous. Et je voudrais rester sur cette image. J'espère que l'année prochaine, on pourra parler d'autre chose que de la pandémie. Mais il reste avec nous, il marche avec nous. Et gardons cette image de cette arche de l'Alliance qui était transportable parce que le symbole de la présence de Dieu n'était pas fixé dans un lieu, mais plus tard, il va être dans nos cœurs. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et ça a été pleinement réalisé avec Jésus, le jour de la Pentecôte. Après, quand Jésus est parti, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pleinement réalisé maintenant parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il est doublement à marcher avec nous puisqu'il est en nous. Voilà, que le Seigneur soit béni.